Merci beaucoup Marie. On a donc le temps d'échanges et de questions. Peut-être je fais juste une je prends la première. Je prends un petit peu la première, notamment enfin peut-être plutôt un rebond sur l'exemple maison de santé. On en a parlé un petit peu juste avant en fait de la dimension parfois assez instrumentale et assez foncière de projets de maison de santé. En l'occurrence, là, l'intérêt qu'a cette entrée maîtrise d'usage, plutôt que simple maîtrise d'ouvrage, telle qu'elle est introduite, et en fait l'intérêt de l'installation d'un maillage avec les acteurs. Alors peut-être, moi, il y a d'une part une chose sur laquelle je vais peut-être faire le micro ainsi, c'est que tu as mentionné rapidement la 27e région, je pense que la moitié de la salle ne connaît pas du tout. Donc on peut avoir besoin de dire quoi. Et puis la deuxième chose plus transversale à tes interventions, moi je trouve intéressant que le dosage que tu as choisi de faire entre des sujets sur lesquels il y a du numérique, des sujets sur lesquels on n'a pas du tout. Par exemple, dans ton troisième exemple, c'est parfaitement secondaire et un peu hors sujet de se dire où est-ce qu'on va mettre le numérique là-dedans. En revanche, on voit très bien à quel point l'inscription de la santé dans le territoire est visitée d'une façon très intéressante par la psychiatrie. Alors, dans le premier exemple, on voit que le dispositif social est vraiment ancré sur la relation entre numérique usager et territoire. Donc c'est la gradation est très intéressante sur ce point. Peut-être sur la 27e région.
Oui, bien sûr. Alors la 27e région, que tu pourrais d'ailleurs présenter parce que tu les connais plus que bien. C'est une association qui a eu 10 ans cette année, qui a été créée en 2008 à l'époque où nous avions 26 régions. La 27e région, c'était la région qui n'existe pas et qui est le laboratoire d'innovation des 26 autres, financé par l'Association des régions de France et la Caisse des dépôts, et aujourd'hui par bien d'autres sources, et qui est devenu progressivement quand même le défendeur et le promoteur de disciplines qui s'étaient développées en Europe et ailleurs, mais qui étaient mal connues en France, qui sont les nouvelles formes d'innovation dans les politiques publiques, dans les ingénieries de projet, l'intégration de nouvelles démarches de projet, mais aussi de nouveaux métiers. Alors il y a eu beaucoup, historiquement, dans l'histoire de la 27e région, la présence du design. Donc le premier livre s'intitulait « Design des politiques publiques ». C'est un titre qui avait fait un peu l'effet d'un boom, parce que design a collé à la politique publique, on ne comprenait pas bien de quoi il retournait. Il faut dire aussi que le métier du design a lui-même énormément évolué, enfin évolue toujours, mais évolue toujours plus. Ça donne un peu le tournis depuis 15 ans, 15, 20 ans, 30 ans. Elle a pour vocation, à travers des projets qui restent, pas toujours, mais une bonne partie des démonstrateurs, de montrer comment il est possible de produire de l'action publique autrement, de penser en amont des ingénieries de projets différemment. Et de produire de la politique publique autrement. Donc il y a eu un certain nombre de projets à l'échelle de l'État, beaucoup dans les collectivités. Donc initialement c'était les régions, mais progressivement ça a été les départements, ça a été les communes, parfois des établissements publics qui se sont prêtés un certain nombre de projets qui se sont appelés les résidences, qui existent toujours mais qui ont été beaucoup pratiqués au début. Progressivement les transfos, qui étaient des projets beaucoup plus conséquents sur à peu près 2 ans dans l'intimité de la région, avec pour but l'installation d'un laboratoire d'innovation intégré. Donc c'était le point d'orgue de ce cycle de transfo qui avait pour vocation de mettre en capacité des agents désireux qui sont eux-mêmes portés par leur direction de constituer un laboratoire d'innovation avec des compétences transversales et la capacité à produire par exemple des commandes publiques autrement et de faire de la commande publique autrement. Il y a beaucoup d'activités en parallèle qui se sont développées. Il y a, je pense, au département du Val d'Oise qui a très vite emboîté le pas, du coup, qui a monté son labo qui produit chaque année un certain nombre de projets intéressants et puis des conférences qui font état des sujets sur lesquels ils avancent. Ça a allumé des feux, si je peux dire, ça a allumé beaucoup de feux et ça continue, donc pas seulement dans les régions. Moi-même, ma présence à l'hôpital, et comme beaucoup d'autres, elle est quand même issue de toute cette histoire Et aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, donc on adhère à la 27e région. J'ai fait adhérer mon hôpital à la 27e région. Et dans 2 semaines, je fais former toute mon équipe de direction pendant ce qu'ils appellent un séminaire découverte d'une journée, de mes directeurs qui ont, comme souvent, une culture professionnelle très très éloignée de l'innovation dans l'action publique avec le design. Je le dis à moitié en rigolant parce que souvent ça crispe. Et je peux comprendre que ça crispe. Les logiques professionnelles, les habitus des agents et des directeurs. Donc voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, en fait, moi je cherche à allumer un feu chez moi. Le fait que je sois là, c'en est déjà une belle preuve. Mais pour autant, mon équipe de direction, il faut que je l'emmène. Moi et tous les autres qui animent ce type de laboratoire intégré. Parce que si nous, on est à la fois les promoteurs, les détenteurs et les provocateurs de ces projets d'innovation, ça ne marche pas. Il faut que ça puisse se diffuser dans les services, que les services s'emparent de nous comme d'un outil. Mais l'innovation, elle vient des services, elle vient des agents, c'est pas nous qui sommes les super génies créatifs. Donc voilà, le but de cette intégration progressive des laboratoires d'innovation, c'est vraiment d'aider les services à produire des projets innovants, à les aider à les porter, à les mettre en œuvre, à les évaluer, etc.
Non, merci. Oui, juste pour prolonger le panorama sur ces sujets-là, tu connais mieux que moi, mais on pourra en parler par la suite. Effectivement, tu as beaucoup interagi avec la famille de l'hospitalité à Strasbourg, entre autres choses, depuis plusieurs années. Et puis, il y a aussi à l'Université de Nîmes, maintenant, l'implantation de Marine Royer, qui est designer et qui est maître de conférence à Nîmes, et le pôle qu'elle pilote désormais en matière de design, en ayant elle-même fait sa thèse sur des questions d'anthropologie sociale liées à la santé, alors qu'elle est designer. Donc c'est une boucle assez passionnante qui se crée du côté des interactions. Et dans tous ces sujets-là, oui, en fait, une partie de l'histoire de la 27e région n'est délibérément pas allée vers le numérique. Elle en vient, on l'a incubée à la FIM, je connais bien, je participe à sa conception. Et en fait, c'était une façon de dire... le numérique va tellement dans l'instrumental que pour s'en émanciper, on va y revenir, on y revient tout le temps, les facteurs de lien du numérique nous intéressent, etc. Mais au fond, il y a tellement de pièges embarqués si on commence par le numérique, sans construire les dynamiques et les réseaux, que quasiment en hygiène d'innovation, il faut commencer à travailler sur le numérique avec un papier, un crayon et des interactions numériques. Alors, vos questions.
Bonjour, je suis Aurélien Visco, je travaille à l'agence d'urbanisme Lorena. Moi j'avais 2 petites questions rapides, que vous l'avez un petit peu abordé, mais c'est sur les... Enfin merci, c'était hyper intéressant ce que vous avez présenté. J'avais une question sur les 2 derniers projets, sur celui pour la maison de santé Pluripro. En fait j'ai bien compris ce qu'il y avait comme innovation en matière de design, j'ai pas vu le numérique en fait, sachant que le sujet c'est numérique et liens sociaux. Donc je dois avouer que je suis resté un peu sur ma faim sur cette question-là. Et puis sur le dernier, sur la psychiatrie, vous évoquiez, il me semble, que ce qui posait question, c'était le fait qu'on implante les CMP et le centre post-cure pour les habitants présents sur le quartier. Et en fait, vous avez beaucoup parlé, si j'ai bien saisi, de comment vous avez mobilisé les gens qui allaient être des patients de ces établissements, mais j'ai pas vu comment la population du quartier était mobilisée elle aussi dans la balade urbaine. Il me semble que c'était bien les futurs patients et pas forcément les habitants. Voilà, donc je m'interrogeais par rapport à la place des habitants.
Bien sûr. Je vais commencer par la deuxième question, c'est la plus fraîche. En fait, les habitants, ils sont mobilisés progressivement et ils le sont à travers les équipements publics culturels sur lesquels on a déjà commencé à travailler. Donc en fait, c'est des gens qu'on est allé chercher dans des cadres rassurants. Dans des moments de présentation, par exemple, des projets qui étaient en cours. Je vais montrer très rapidement la carte illustrée. On a aussi tout un travail autour de la déambulation en s'aidant de la couleur comme outil d'orientation. Donc on a fait des présentations publiques, des projets qui étaient engagés sur le site, dans des lieux tiers, en l'occurrence la médiathèque Ursona, etc. Dans les balades en tant que telles, les habitants n'ont pas été tout de suite engagés parce qu'il y avait d'abord un premier enjeu à construire un commun entre les patients et entre les professionnels qui étaient donc issus de structures différentes dans le 15e, qui avaient beau être proches les unes des autres, qui ne se connaissaient pas. Donc il fallait d'abord construire un sentiment rassurant commun avant, si j'ose dire, de passer un peu au deuxième niveau qui était de rencontrer le regard des habitants. Après, on a quand même, on s'est appuyé 2 années de suite sur les conseils locaux de santé mentale. Donc, comme je disais, c'est des conseils qui sont installés par arrondissement et qui sont gérés par le maire adjoint aux questions d'accessibilité et de handicap. Chaque année, il y a ce qu'on appelle les semaines d'information en santé mentale, c'est généralement au mois de mars. La vocation de ces semaines sur des thématiques, l'année dernière c'était la pédopsie, cette année justement ça va être sur le numérique pour ouvrir les perspectives de déstigmatisation de la santé mentale, elles nous permettent au contraire, justement d'aller à la rencontre des habitants. Donc à 2 reprises, on a ouvert le rez-de-chaussée, alors d'un bâtiment qui était en chantier, on a ouvert le rez-de-chaussée pour présenter ce qui était en cours, pour taire aussi certaines des légendes urbaines qui consistaient à dire que ça allait être un asile, etc. Enfin, il y avait déjà des représentations très négatives. J'étais allée faire un travail à la base de balisage pour aller distribuer quelques tracts et rencontrer les commerçants, parce que les commerçants, ça permet aussi de prendre le pouls. Il y avait comme ça, dans une pharmacie, le pharmacien qui m'avait dit « Oh là là, qu'est-ce que... » avant de comprendre qu'il y avait peut-être un enjeu commercial intéressant. « Oh là là, la psychiatrie, on a déjà Sainte-Anne dans le 14e, et puis vous savez, on a eu des problèmes avec des pédophiles, là, ça a fait partir des familles, donc... » malheureusement, c'est pas un mythe, ça reste des représentations très négatives. Et quand je dis que nos patients sont en souffrance, ils ont vraiment une double peine parce qu'il y a leur pathologie, mais il y a aussi ce qu'elle produit sur le public. Donc il y a eu plus ce travail de ratissage avec des acteurs ressources et ensuite des invitations ponctuelles à des ouvertures comme les semaines d'info en santé mentale et pendant des présentations publiques qui montraient aussi la qualité du lieu, parce que ce qui fait peur, c'est la psychiatrie, mais aussi un lieu de service public qui va être vite dégradé, engendrer des dégradations dans le voisinage. Donc on a montré qu'on prenait le projet très au sérieux et que ça allait être un équipement de qualité qui allait plutôt valoriser la rue que la déprécier. Et sur la première question, vous avez tout à fait raison, le numérique n'est pas présent. Le numérique n'est pas présent, mais... parce qu'en fait, il n'est pas rentré d'entrée de jeu comme un outil qu'il fallait insérer coûte que coûte dans cette dynamique. Et c'est peut-être la logique que je déplore parfois, que le numérique fasse partie dans les cahiers des charges d'une donnée de base qui sonne parfois comme une injonction et dont on ne va pas trop savoir quoi faire. On va être un petit peu encombré et du coup on va produire un truc pour produire un truc. Il y avait vraiment des enjeux, de comme je l'ai dit, d'accès à la population qui n'étaient pas évidents et qui nous ont fait penser peut-être... Bon, alors on a mis en place un blog qui permettait d'informer de où, quand, comment, mais on a eu vraiment besoin d'aller à la rencontre des gens. Donc je dirais que dans le temps qui nous était imparti, on a surtout travaillé de manière très low-tech déjà à comprendre comment accéder aux personnes, comme une première étape pour comprendre leurs besoins, leurs représentations. À l'évidence, hein, ça pourrait être, il y aurait eu des opportunités de service associées dans une deuxième phase, mais là, on était d'abord vraiment de pouvoir intégrer des gens dans une concertation et de se rendre compte déjà de la difficulté initiale que ça représente de les concerner, ce qui était la priorité. Voilà. Oui, bien sûr.
Un micro suffit, c'est par rapport à votre question, parce qu'en effet, moi j'adhère à tout ce que dit Marie là-dessus. Si le numérique est un présupposé, on a un problème. En revanche, on voit à quoi ça pourrait servir. On a pensé à faire intervenir les acteurs qui portent les projets expérimentaux en région PACA un d'entre eux étant sur les maisons de santé. Et la question de à la fois des salles d'attente, des relations qui peuvent se faire, de la prévention santé qui peut s'y faire, et ainsi de suite. Et on l'a finalement pas fait parce que certains d'entre vous ont déjà eu cette présentation dans le cadre des ateliers de Menton en juin, si ma mémoire est bonne. Donc ça veut dire qu'on a désamorcé la chose, mais en l'occurrence, une des questions peut être de se dire est-ce que l'environnement informationnel du lieu physique est quelque chose qui peut être plus riche. Est-ce qu'à un moment donné, on peut utiliser la salle d'attente de façon plus interactive avec des expérimentations, avec des, tablettes, des bornes et des choses comme ça, et on peut voir ce que ça peut donner. Est-ce que la dimension servicielle du lieu peut être un peu plus visible? Est-ce que, par exemple, on peut rendre plus lisible l'offre de services du territoire en rendant plus accessible et plus compréhensible la carte des services d'un territoire, les horaires, les itinéraires, les fonctions qui y sont remplies, de façon à faire une meilleure orientation? Ça, c'est plausible. Et est-ce que, d'autre part, il y a des pratiques sociales qui vont passer par les canaux numériques? Une des choses sur lesquelles j'ai peut-être pas assez insisté, puisqu'on va vite à dire la dématérialisation produit l'exclusion sociale, etc. Une partie des publics sont très heureux de l'anonymat des échanges en ligne qui leur permettent d'échanger sur des choses dont ils ne parleraient pas en face à face pour avoir des interactions. Alors, ça peut être des interactions administratives. Je ne veux pas le regard de l'agent public, du guichetier, de la personne qui me contrôle sur moi. Ça peut être de l'échange entre pairs. Ça peut être tout un ensemble de choses comme ça. Mais ça se travaille, c'est délicat, ça demande souvent des médiations. Ça demande en tout cas des environnements de confiance et pour le coup potentiellement des formes d'anonymat confiant ou de pseudonymat qui font qu'on sait où on est, on installe la sphère de confiance. Or, il est quand même plus direct d'installer des environnements de confiance dans le type de balade que tu as raconté que de faire monter plusieurs marches à la fois des personnes en situation de fragilité.
Peut-être si je peux me permettre, pour compléter ce sur quoi j'ai essayé d'insister dans ma présentation, je pense que vous l'avez compris, c'est vraiment sur l'importance du diagnostic initial qui précède l'identification du numérique ou d'autre chose comme une solution, comme un outil. Je donnais un exemple, je le donnais déjà à la FNU, mais il est récent. Chez nous, on a eu un projet tout récemment autour de comment pallier les absences des patients à leur rendez-vous. Les patients qui sont soignés en ambulatoire et qui ne se présentent pas à leur rendez-vous. C'est quand même un problème, on les attend, ça nous fait perdre de l'argent, etc. Et on a eu il y a une solution qui est arrivée très vite pour répondre à cette question, qui était, on va leur envoyer des SMS pour leur rappeler, parce qu'ils ont oublié. Et en fait, ça n'a pas produit beaucoup d'effet. Et c'est intéressant de comprendre pourquoi. On est allé rencontrer un certain nombre des personnes qui avaient reçu ces SMS. Déjà, on a eu du mal à les rencontrer, je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, il y a un problème dans notre population de motivation. C'est pas de savoir si le rendez-vous pas. Généralement, les gens savent, ils ont pas la maladie d'Alzheimer, ils savent, ils ont un téléphone, mais ils ont du mal en fait à avoir l'élan. Ils ont peur, ils ont pour de multiples raisons expliquées par leur pathologie, ils sont pas motivés, ils ont beaucoup de mal à se mobiliser pour y aller. Donc c'était pas tant se rappeler, c'était trouver plutôt des leviers, des appuis, des raisons de se présenter à leur rendez-vous. Donc d'un seul coup, ça devient un peu plus compliqué, ça nécessite plus de médiation humaine, pas que, hein, il peut y avoir un soutien avec des outils, mais l'importance d'abord de bien comprendre les raisons et qui sont parfois pas toutes très rationnelles, de quel point de vue d'ailleurs. Mais de bien creuser cette partie initiale de diagnostic.
Alors moi j'ai une remarque sous forme de questions, et puis un retour d'expérience. Je vais être courte. La partie jardin, moi je suis intéressée de savoir dans votre exposé comment vous l'avez traité pour le lien avec le quartier. En clair, est-ce que vous avez cassé les murs? Est-ce que vous avez proposé de casser les murs pour en faire un vrai jardin de quartier et d'ouverture? Est-ce que ça peut pas être le lien avec l'habitant? Ma première question, c'est est-ce que vous pouvez expliquer, ou est-ce que c'est similaire à un comité local de santé mentale et un contrat local de santé? Quelle est la composition de ces deux, un outil et de ces deux types d'outils? Parce que vous parlez des élus, mais est-ce qu'on retrouve les mêmes parties prenantes? Et puis sur votre expérience en milieu rural, alors là les collègues qui bossent avec moi sur le dossier ils vont sourire, est-ce qu'il y a un lien avec l'hôpital le plus proche ou pas? Voilà. Comment se travaillent ces relations-là? Et puis un retour d'expérience sur la 27e région, puisque moi j'ai travaillé avec eux à la communauté urbaine de Dakar, qu'ils en sortent. Là, je suis désespérée qu'ils nous quittent. Donc ils sont en train de construire, enfin les collègues sont en train de construire un laboratoire, mais ils sont quand même sacrément moteurs. Moi, j'ai entre guillemets forcé la main à trois de mes collègues pour être au laboratoire en me disant que s'ils travaillent à la 27e région, ils vont pouvoir capitaliser et apporter leur mode de faire et leurs approches innovantes au sein du travail transversal au sein de la direction. Et j'ai regretté en fait qu'il n'y ait pas ce travail pédagogique de la 27e région. Comment en fait on capitalise, comment la 27e région capitalise dans le groupe qui est constitué de plusieurs entités, plusieurs collègues de plusieurs directions, comment on capitalise pour faire descendre ce laboratoire d'innovation en transversal et en vertical dans nos directions. Et moi, je ne l'ai pas là aujourd'hui. En fait, j'ai trois super agents qui ne sont pas des catégories A volontairement, que j'ai identifiés en catégories C et B, donc volontairement. Et ça ne passe pas. En fait, ils ont une super connaissance, une super matière, un gros travail pédagogique, mais ils n'ont pas été formés pour pour transmettre en fait cette partie.
Alors je vais faire un effort de mémoire. Vous avez commencé par le jardin. Alors il faut peut-être que je dise d'abord d'où on part. Il y a une grande histoire des jardins en psychiatrie, parce qu'à l'époque où la psychiatrie était versée sur l'asile, c'était la source de liberté, de déambulation, etc. Il existe toujours beaucoup de jardins. Mais aujourd'hui, ils se sont rapetissés à mesure que les structures se sont recomposées. Et aujourd'hui, en fait, les jardins, ils sont malheureusement plus source de problèmes qu'ils ne sont des lieux de confort, parce qu'il y a malheureusement beaucoup de consommation de produits toxiques dans le jardin, ouvert ou fermé. Ce qui est évidemment très problématique et qui fait du coup on va éviter de faire des petits cheminements dans ces jardins, il va y avoir aucun buisson, ça va plus ressembler pour certains à des terre-pleins. Et par ailleurs, quand un jardin est partagé par plusieurs structures, les équipes sont très très frileuses à avoir des plages d'ouverture très libres, parce que quand il y a des conflits avec des patients que les équipes ne connaissent pas, parce que c'est les patients du service d'à côté, ils ne savent pas comment réagir. Il y a vraiment cet atavisme, mes patients que je connais, que je sais, et par contre ceux des autres, c'est pas à moi de les gérer. Donc on en est arrivé dans certaines discussions initiales à ce que les professionnels nous disent « il est super ce jardin, vraiment quelle chance avec ces six beaux grands arbres, mais personne ne va s'en occuper, peut-être qu'on devrait le fermer ». Donc on est parti de là quand même, avec toutes les angoisses que je viens de citer. Donc là, en fait, on est en plein, en ce moment, en train d'animer des moments de concertation qui doivent aboutir à un plan de gestion de ce jardin. Parce qu'il y a des responsabilités partagées entre les professionnels de santé pour garantir que ce jardin, ça va rester un lieu d'aisance, que ça va rester un poumon, que ça va être un lieu agréable pour décompresser avant ou après un entretien avec le médecin. Et que par ailleurs, ça va nous permettre d'abord, en restant entre nous, d'envisager progressivement des ouvertures. Dans cette perspective, on a commencé à discuter avec les jardins partagés, il y en a beaucoup dans le 15e. Donc pas très loin, il y a un jardin qui s'appelle le Clos Feuquière, dans lequel il y a toute une association qui travaille sur les jardins partagés pour commencer à voir comment on pourrait faire d'une partie de la parcelle un jardin partagé avec éventuellement un petit peu de culture, mais de légumes. Pourquoi ? Parce que le foyer de post-cure, c'est un lieu de vie. Et donc les résidents, patients résidents du foyer post-cure, c'est aussi leur jardin le soir et le week-end, quand les patients du CMP ne sont plus là. Donc pour eux, c'est vraiment leur jardin. Donc on envisage pas à pas, mais c'est parce qu'on revient de loin, comme je le disais, une ouverture progressive, avec d'abord une diversification des activités, et progressivement, parce que c'est ce qu'on vise, des ouvertures publiques pendant des moments de concert, pendant des moments d'exposition, pendant des lectures à ciel ouvert, et tout ce qu'on est en train d'imaginer avec les acteurs que je citais. Donc c'est un travail qui est fait pas à pas. Après, j'ai pas bien compris votre question sur les conseils locaux de santé mentale.
Qui participe en fait Est-ce qu'on retrouve les mêmes qui travaillent sur le contrat, enfin qu'on retrouve dans l'animation du contrat local de santé, est-ce qu'on retrouve les mêmes dans le conseil?
Pas nécessairement. Dans le conseil sont très très représentées les associations. On peut travailler comme ça avec les représentants de la FLAPSI, l'UNAFAM, de manière très très libre. Donc on a beaucoup travaillé avec les associations par le biais des CLSM. Donc c'est piloté évidemment par la maire adjointe dont je parlais, de son équipe, mais c'est quand même avant tout la rencontre des représentants des associations. Alors votre question sur les maisons de santé, la relation avec l'hôpital, alors on a très tôt engagé la discussion avec l'hôpital, mais aussi pour, sur certains angles précis, l'un d'entre eux était le recrutement des professionnels. Et la mobilité entre la structure hospitalière et la maison de santé. Et une première question évidente qui s'était posée, c'était si on veut fidéliser, si on veut initier des professionnels qui ne sont pas issus du territoire, qui ne sont pas des enfants du pays avec les combrailles qui coulent dans leur sang, parce qu'il faut ça aussi quand même pour avoir envie, quand on ne connaît pas dans un territoire un peu hostile, éventuellement très enneigé avec des routes coupées en hiver, il faut avoir envie. Tout simplement, déjà, on ne pouvait pas accueillir des stagiaires parce que le foncier ne le permettait pas. Soit il n'y en avait plus, beaucoup acquis par des retraités européens qui étaient venus s'installer. Il n'y avait plus de foncier libre pour accueillir dans de bonnes conditions un jeune infirmier, un jeune médecin, éventuellement sa famille et l'école des enfants. Enfin voilà, ça a commencé à poser ces questions-là. Donc comment est-ce qu'on allait déjà pouvoir faciliter la mobilité des professionnels, l'accueil de stagiaires, et qu'est-ce qui nécessitait d'abord de mettre en place sur le territoire pour que ça puisse se passer dans de bonnes conditions. Donc on a, je réponds peut-être partiellement à votre question, mais on a travaillé sur des questions très précises de ce type-là avec l'hôpital. Deux des trois médecins du comité de pilotage allaient partir à la retraite d'ici 3 ans, donc très 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 courte échéance. Je ne me rappelle pas votre dernière question.
C'était
la remarque de la 7e,
oui. Oui, et puis comment transmettre effectivement ces méthodes, ce qu'on a tous besoin de devenir designer.
Au moins, de pouvoir travailler dans une équipe, de pouvoir commander, formuler les sujets, Il y a beaucoup de formations qui se sont développées en parallèle, que ce soit les écoles de design, les écoles de management, l'ENA. Il y a quand même maintenant de plus en plus d'occasions d'être initié à ces approches et parfois à leur technique. Dans le but d'être facilitateur interne pour accéder à ces métiers, être capable de faire des commandes, de piloter les projets en interne. Donc, je dirais qu'au-delà de la 27e région, il y a aussi quand même un écosystème d'acteurs de la formation continue qui ont pris le relais, initial ou continu d'ailleurs. Et ça, ouais, ça reste une question qui...
Encore une question ?
Oui, là, j'ai Yann Cabran, l'agence d'urbanisme de Toulouse. J'ai 2 questions, 3 exemples et 6 interrogations.
Laissez-moi prendre un crayon.
Le même métier. Non, sérieusement, il y a deux points qui me paraissent intéressants. Finalement, je trouve qu'on a peu évoqué dans tout ce cycle. C'est l'inclusion des espaces de santé physiques dans la ville, leur ouverture avec la ville, enfin, vous l'avez très bien évoqué, hein, cette image encore de l'asile qui fait peur. En vous écoutant, me venait en tête aussi juste l'emprise foncière des CHU, par exemple, qui souvent sont fermés, badgés, il y a un parking visiteur, mais alors après, pour rentrer dans le reste, c'est impossible. Est-ce que, selon vous, c'est très spécifique à ce milieu de la psychiatrie? Ou est-ce que d'une façon plus générale, il y a un vrai problème aujourd'hui de la reconnaissance de la santé, parce que peut-être on y voit plus la maladie que le soin, dans les équipements physiques dans la ville et leur place dans la ville? C'est la première question. Et la deuxième, c'était juste par rapport à ce que disait Jacques-François sur avoir fédéré sur les horaires d'ouverture, etc. Moi, j'ai toujours en tête... le fait que toutes les collectivités ont à peu près une page de leur site web sur l'annuaire des festivités culturelles, Bon, à tel point que peut-être tout le monde le fait, donc personne ne le fait, personne ne sait jamais où chercher l'info. Si vraiment on veut avoir une vision de ce qui se fait d'un point de vue culturel, on ne trouve pas, quoi. C'est pas vrai. On peut chercher selon certains canaux par rapport à ce qu'on veut, mais il n'y a pas un endroit qui agrège ça. Et j'y crois pas trop sur le service public non plus, quoi. Enfin, je crois pas qu'il y ait, sauf si c'était vraiment un truc étatisé, mais même ça, j'y crois pas. Donc. Est-ce que vraiment c'est le bon levier de se dire que ça passe par là, ou est-ce que c'est, enfin, je crois plus dans les actions que vous avez menées, de grande proximité, quoi. Pour un sujet, la maison de santé, on a une information qui est faite. Mais voilà, je ne crois pas trop au côté agrégateur.
Déjà, je porterai la parole fidèlement de mon directeur de Sainte-Anne, du GHT, qui voit Sainte-Anne aujourd'hui comme un hôpital ouvert sur la ville. Sainte-Anne, c'est un peu particulier par rapport aux asiles psychiatriques qui ont 150 ans tous un peu ces dernières années, c'est qu'il était déjà dans le cœur de la ville. Il n'a pas été construit en périphérie, il était déjà en cœur de ville. Par contre, il a ouvert ses portes, et aujourd'hui, c'est à tel point qu'on est en train de refaire la partie accueil. Le grand portail symbolique de Sainte-Anne va être ouvert. Alors, malheureusement, on a dû fermer pour d'autres raisons, Vigipirate de nouveau, remettre les barrières et tout ça. Mais il le voit vraiment comme un hôpital ouvert. Et c'est quand même intéressant de regarder, en venant par exemple le week-end, que Sainte-Anne, derrière lequel se loge le parc Montsouris, est très pratiqué par les habitants. Il y a parfois même des anniversaires d'enfants. Ça paraît fou, mais parce qu'il y a beaucoup de jardins dans Sainte-Anne, et tous les jardins ne sont pas dans les pavillons d'hospitalisation. Ils demeurent, c'est un des plus grands parcs de pleine terre de Paris, à l'intérieur d'un hôpital, elle est classée, on ne peut pas y toucher. Et beaucoup de ces jardins ouverts, je vois parfois, quand je pars à 17h30, des enfants avec le goûter à la sortie de l'école, dans ces jardins, parce que Montsouris est plus loin, ou alors on traverse Sainte-Anne pour aller à Montsouris. Donc cette porosité, aujourd'hui, elle est voulue, elle est déclarée, puis elle se travaille beaucoup plus dans les formes d'accès. Donc là, on a vraiment une concertation là-dessus, sur la refonte de notre accueil. En revanche, quand je parlais tout à l'heure de la discrétion de nos petits équipements, il y a quand même des controverses qui demeurent sur doit-on être discret ou doit-on se montrer tel qu'on est, en n'ayant pas honte de montrer ce qu'on est, et en montrant, si tant est en plus qu'on peut être à peu près accueillant, à peu près rassurant et présentant des lieux de qualité, en écrivant le mot psychiatrie, en écrivant santé mentale, etc. Ça, c'est un nom pas résolu, et pour le moment, l'écrasante majorité des structures se réfugient derrière des acronymes et ne présentent pas le logo de Sainte-Anne. Enfin, c'est le plus discret, le mieux. Après, il y a le mouvement de convergence dont je parlais tout à l'heure qui va s'accentuer. Donc les structures, elles vont être de fait de plus en plus visibles. Et puis parce que aussi, cette discrétion assumée qui prévalait plutôt dans les années 80-90, on est en train de changer de point de vue. On commence à dire, maintenant, de toute façon, la psychiatrie, c'est la psychiatrie et la santé mentale. Donc si on veut se réinscrire dans la cité, il faut qu'on s'affirme comme des équipements de santé publique. Alors c'est sûr que c'est moins stigmatisant de rentrer dans un centre d'ophtalmologie ou dentaire que dans un centre médico-psychologique, mais il y a quand même ce mouvement, j'ai bon espoir vraiment, qui permette de resignaler et du coup de réouvrir les structures dans la ville. Et votre deuxième question, c'était quoi déjà ?
Une remarque plus sur le côté agrégateur.
Oui, que je partage. Ouais.
Alors, juste peut-être sur le même sujet d'ouverture sur la ville, juste l'écho de la photo aérienne de Carpap qu'on a vue hier. C'était la façon dont, au fond, on était étonné du fait que les questions du handicap soient vues comme un avantage, etc., pour un territoire donné. Et l'ouverture, le parc, la plage, etc., de Carpap sur le reste du territoire et sa notoriété font beaucoup pour que ça s'apprivoise. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose qui vit à ciel ouvert et qui est très intégré. Et il y a une parenté avec ce que tu viens de dire sur Sainte-Anne, je crois. Alors, je dis quand même un dernier mot sur la question de la synchronisation des services. Je partage tout à fait votre opinion sur le fait que ce n'est pas forcément le service public qui va être l'endroit où on va aller se renseigner sur où est-ce qu'on trouve telle chose. En revanche, le fait de s'assurer que dans l'offre de services de territoire où il y a entre guillemets rien, on arrive à mettre en valeur le fait qu'il y a entre guillemets quelque chose, une problématique située très différente de la problématique urbaine où il y a beaucoup de choses, ça peut être parfois très intéressant avec un facteur très, très important dans le numérique, c'est qu'une information peut être classée de plusieurs façons. Elle peut être zoomée, dézoomée, c'est-à-dire si je peux faire le plan large en disant voilà quelle offre culturelle il y a sur un grand territoire, ou faire le plan serré en disant voilà tous les services publics sur un beaucoup plus petit territoire, et je vais avoir des réponses. Et puis elle peut être thématisée, hein, je renvoie à l'exemple de projets comme Handibap, c'est-à-dire des parcours d'usage bien précis permettant d'utiliser des données pas faites pour ça, pour se demander comment on circule dans la ville. Et donc probablement le fait d'arriver à travailler sur les chronodistances, travailler sur les temps de l'année et de la journée, travailler sur ce genre de choses, sont assez intéressantes dans des perspectives aussi de chrono-aménagement du territoire, dont on aurait pu d'ailleurs parler un peu plus. Bon, merci beaucoup.
Merci, Marie. À vous.